enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Bonjour à chacun et à chacune. Je suis très content de ne pas avoir décidé de commencer en vous chantant quelque chose. Là, je sens que j'ai eu réellement une inspiration. Parce que je pense que je me serais surtout couvert de ridicule. Marquez, ça peut venir après. Voilà. Donc, puisque nous sommes rassemblés, c'est autour de devant la parole de Dieu. Et cet après-midi, c'est vraiment c'est un petit peu quelque chose. Je ferai un petit peu différemment d'autres fois. J'aimerais faire un petit peu une espèce de commentaire. Mais quand même, avant, je vais demander à mon épouse de se lever, parce que peut-être vous ne la connaissez pas. D'habitude, je viens tout seul. Mais là, je sentais que j'avais besoin d'être couvert. Merci. Voilà, en général, en France, on dit de nos épouses que c'est notre moitié. Les Anglais disent notre meilleure moitié. C'est plus joli encore. Et c'est vrai que c'est bien cette fois qu'on ait pu venir ensemble. Alors bon, je ne sais pas si c'est la peine que je dise quelque chose encore sur moi. Jacques a déjà dit un tas de trucs qui ne sont pas tous justes. Donc voilà. Alors, cet après-midi, j'avais envie de démarrer un petit peu par, j'aurais voulu vous proposer de faire un hit parade. Hein, le hit des grands hommes de la Bible, hein, des personnages bibliques. Hein. Si on devait faire un espèce de classement de popularité des hommes bibliques, des personnages bibliques, qui est-ce qui sortirait du chapeau en premier? Alors bon, pour quelques-uns, je pense que ils ont Élie, d'autres, ce serait Samuel, d'autres peut-être, je sais pas, Moïse ou peut-être Mathusalem pour quelques-uns. Ou il y en a qui plus rarement qui penserait à Méphibosheth. Bon, mais je pense que un de ceux qui sortirait certainement le plus souvent, je pense, ce serait David. Et ça serait intéressant aussi déjà de savoir pourquoi les uns et les autres on aurait voté pour tel ou tel. Et c'est vrai que David, c'est quand même déjà de toute façon dans la Bible un des personnages qui est le plus connu, dont on a sur lequel on a le plus d'informations, tout un tas d'épisodes sur David. Alors, il y a des épisodes qui sont extraordinaires, David et Goliath, par exemple, ça c'est un truc qu'on aime, hein, c'est très gaulois, le petit qui pourfend le grand, bon. Et puis, vous avez aussi d'autres épisodes qui sont tout à fait sinistres, hein. Bon, c'est David et Uri, David et Bathsheba. Et suivant comment on fait une sélection de toutes ces informations, on aboutit à quelque chose de très brillant ou de très noir. Ça m'a fait penser, on parlait à propos de JFK, de Kennedy, on parlait de la légende dorée et la légende noire. Ça dépend les informations qu'on prend sur lui. Et on pourrait aussi faire, à propos de David, un petit peu une espèce de légende dorée ou une légende noire. Ça dépend comment on veut voir. Et ce qui m'intéresse, en ce moment, je suis un peu dans un travail sur ça, c'est au-delà du personnage un peu mythique quand même, au-delà des victoires, au-delà de l'envergure de son ministère, c'est le bonhomme qui est à l'intérieur. Hein, c'est Monsieur David qui m'intéresse. C'est son cœur, c'est ses motivations, ses intentions. Et pourquoi ? Parce que dans chaque ministère, il y a la fonction du ministère qui est exercée, mais cette fonction, elle est exercée par quelqu'un qui est à l'intérieur. La fonction, c'est ce que fait la personne, mais ce qui est à l'intérieur, quelquefois, est beaucoup moins connu, et quelquefois, ça peut nous tromper, on peut avoir une approche qui est trompée par l'apparence du ministère. Et chez David, on a souvent retenu ce qu'on lui voit faire, mais dans la Bible, il y a quand même beaucoup de choses qui nous permettent aussi de le connaître lui en tant que personne. Et c'est un petit peu un souhait pour moi, c'est que pendant ces quelques jours où nous sommes là, nous puissions ne pas forcément échanger à propos de nos ministères, à propos de nos fonctions dans le corps de Christ, mais à propos de ce que nous sommes, de personne à personne. C'est-à-dire cultiver davantage quelque chose qui va dans le sens de la communion, dans le sens de pas seulement, je dirais, la collaboration, mais la communion. Voyez ? Et donc je m'intéresserai plus à la vie relationnelle de David, comment David comment David règle ses relations, comment il a géré ses relations, en particulier avec ses collaborateurs. Parce que on est ici dans ce sens-là aussi, hein, dans un but de savoir comment vivre ensemble et pas simplement nous côtoyer, pas simplement être les uns à côté des autres. Sam disait tout à l'heure que du temps est laissé justement pour qu'on puisse se parler, pour qu'on puisse se connaître, hein, et rentrer un petit peu en vibration les uns avec les autres. Alors, pour bien connaître David, je voulais parler aujourd'hui et demain un peu de ses collaborateurs, mais alors je vais faire une introduction qui sera déjà pas tout à fait dans ce cadre-là. Je voudrais simplement faire un petit raccourci sur David et Michal. Michal, c'est la première épouse que David a eue. Vous savez que tout de suite après avoir vaincu Goliath, David a été introduit au palais, et puis le roi Saül avait promis de donner sa fille à celui qui vaincrait Goliath, etc. Donc Saül a failli donner sa fille aînée, hein, à David. C'était Merab, et David était bien d'accord pour la prendre. Puis finalement, Saül lui a fait un sale coup, il l'a attribué à quelqu'un d'autre. Bon. Mais quelques temps plus tard, David, la deuxième fille de Saül, Michal, est tombée amoureuse de David. Et c'est comme ça qu'on connaît Michal. On ne sait pas grand-chose de cette Michal, sauf que un épisode qui nous est bien connu, je pense vous rappeler de ça, c'est, vous savez, c'est quand bien des années plus tard, David a fait rentrer l'arche. Vous vous rappelez de cette histoire, hein? David a fait rentrer l'arche à Jérusalem. Avant, il n'y était pas, et donc il était content, il sautait, il dansait, tout ça. Et Michal, depuis la fenêtre, elle l'a regardé faire, et ça l'a beaucoup énervé. Il a dit, voilà, tu le vois lui là? Regarde dans quel état il se met là, à montrer ses gambettes à tout le monde là, comme ça. Alors, quand il est arrivé, il lui a fait une scène, il lui a dit, oh, tu t'es cru malin comme ça, hein? Sauter comme ça, gambader, tu es le roi quand même, t'es pas... Et ils ont eu une dispute, tiens, je vous la lis. 2 Samuel 6, moi je l'ai sous la main, hein, mais... Je lirai couramment, hein, vous inquiétez pas. Comme l'arche, c'est au verset 16, hein, puis après on sautera les versets 20 à 23. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter, danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Au verset 20, David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur pour aujourd'hui, pour le roi d'Israël, de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien du tout. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé, et je veux paraître plus vil que cela encore, et m'abaisser à mes propres yeux, et néanmoins... je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, la fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Et quelle est notre réaction devant ce texte? Ah, on se dit, cette Michal, ça devait quand même être quelqu'un de vraiment pas bien spirituel quand même. Ne pas reconnaître la portée prophétique d'un tel acte. L'arche qui rentre à Jérusalem, ne pas pouvoir comprendre ce sursaut d'enthousiasme que son mari avait, être aussi bassement, etc. Et puis de toute façon, on se dit de toute manière, hein, si on lit le texte un peu vite, on dit de toute façon, Dieu lui-même, hein, l'a réprouvé et l'a condamné, puisque à cause de ça, il l'a rendu stérile. Alors, attendez, une seconde. Attendez, une minute. Un truc. C'est qu'elle n'est pas devenue stérile à partir de ce moment-là. Si elle n'a jamais eu d'enfant de toute sa vie, c'est qu'elle n'en a jamais eu avant ça non plus, hein? OK? Or, à cette époque-là, là où se passe cet épisode-là, Michal, elle avait à peu près entre 45 et 50 ans. Donc c'est plutôt à l'âge où, en général, les femmes ne désirent plus tellement en avoir. OK? Donc le problème, ce n'est pas que Dieu l'a jugée à propos de ça, du fait qu'elle ne se soit pas réjouie. Ça veut dire que le problème, il remonte bien longtemps avant ça. Et que notre réaction est peut-être une réaction un petit peu rapide. Quand vous relirez les textes, parce que là je voudrais juste, c'est juste pour faire un petit historique, quand vous relirez, vous verrez que deux fois il a dit que Michal aimait David. Mais vous ne trouverez pas écrit la réciproque. C'est Michal qui aimait David, un point. Ce que David voulait, lui, c'était devenir gendre du roi. Parce que ça, c'est écrit au moins une dizaine de fois dans ce passage-là. Et David n'a jamais négocié pour devenir le mari de Michal. Il a négocié pour devenir le gendre du roi. C'est une nuance, hein? C'est une nuance. La preuve que ce qui l'intéressait, c'était d'être gendre du roi, c'est que 6 mois auparavant, ça ne lui aurait rien fait du tout d'épouser sa sœur. Bon, il n'a pas eu, il a eu l'autre. Il est devenu gendre du roi quand même, voyez? Et ça veut dire que pour lui, Michal était surtout, avant tout, une promotion sociale. C'est un petit jeune homme qui sort d'une famille de rien du tout. Et en rien de temps, il a franchi des étapes, mais à une vitesse fulgurante. Il était déjà sur le dessus du panier. Et tout d'un coup, il avait maintenant aussi l'opportunité de devenir le gendre du roi. Il entrait, tac, dans la famille princière. Et Michal, forcément, même si peut-être au départ, ça ne lui a peut-être pas semblé aussi évident, mais avec le temps, elle s'est rendue compte de ça quand même. Elle s'est aussi rendue compte que son père n'avait accepté qu'elle devienne le mari de David qu'à cause d'un odieux chantage. Saül s'est dit, au lieu de demander une dot à David, je vais essayer de le pousser dans un combat contre les Philistins pour qu'il y meure. Et il a réclamé à David 100 prépuces de Philistins. Bon, on peut pas discuter sur ça, quoi. Bon, alors, il les a eus, le texte ne dit pas ce qu'il en a fait, il les a eus. Alors, mais ce qui est certain, c'est que Michal s'est forcément aperçu qu'en réalité, ce qu'elle était pour son père, c'était un appât, un gibier pour faire mourir son propre fiancé. C'est difficile d'espérer concevoir une machination aussi, plus perfide, plus odieuse, plus lamentable que ça. Et elle a été aussi manipulée par son mari pour devenir simplement un moyen de promotion. Après ça, David a été obligé de s'enfuir parce que Saül voulait le tuer. Et Michal a pris des risques pour lui. Vous vous rappelez de cette scène? Elle a mis un truc dans le lit pour faire croire qu'il était là pendant qu'il s'enfuyait par la fenêtre. Et Michal a pris des risques parce qu'elle connaissait le caractère caractériel de son père qui aurait pu vraiment même se mettre en colère contre elle. Elle a pris des risques pour lui. Et puis David est parti. Et quand il était en exil, alors elle a entendu dire, parce que les bruits revenaient quand même de toute façon, elle a appris quand même qu'il s'était quand même, un petit peu consolé rapidement, quoi. Hein? Parce que rapidement, il avait deux femmes, après, pendant qu'il était en exil. Et même une fois, il a fait un coup de force extraordinaire parce que des pillards étaient venus prendre toute leur ville, leurs femmes, leurs enfants, là où était David en exil, à Tsiklag. Et David a fait un coup de force extraordinaire pour récupérer leurs femmes, leurs enfants, etc. Il a fait un coup de force terrible. Et tout le monde disait, vous savez, David, on disait en douce, hein, parce qu'il ne fallait pas que Saül l'entende. Mais Michal, elle savait aussi. Elle se dit, c'est drôle pour moi, il n'a pas fait un coup de force, quoi. Hein? Il peut rentrer dans le camp de Saül de nuit, tout seul, pour aller lui piquer sa cruche et sa lance. Mais pour moi, il n'est pas venu avec un commando pour me récupérer, quoi. Et les choses ont continué. Après, finalement, David, à un moment, a commencé, il est devenu roi. Hein, il est devenu roi, mais d'abord sur une seule tribu, la tribu de Juda. Et là, quand son royaume a commencé à devenir militairement assez fort, alors il a imposé, parce que Michal faisait partie du royaume en conflit, du royaume adverse, elle était reléguée là-bas, et David a exigé qu'on la lui rende. Et le texte, c'est très joli aussi, il dit à Ish-bosheth, « Donne-moi ma femme Michal que j'ai acquise pour 100 prépuces de Philistins. » Moi, je lis, hein. Ish-bosheth la fit prendre chez son mari, Paltiel, et son mari la suivit en pleurant jusqu'à Bakurim. Vous voyez que David a écrit, il a pu écrire au roi du pays adverse. Il lui a écrit. Mais est-ce qu'il a envoyé un petit mot doux à Michal? On n'en sait rien. En tout cas, ce qu'il réclame ici, c'est son butin de guerre. C'est son butin. Il dit ça, je l'ai acquis par les armes. Ça m'appartient. Alors, vous voulez faire des négociations, pas de problème, on négocie. D'abord, je récupère mon bien. C'est romantique, hein? C'est joli, ça. Alors, et pourquoi est-ce que Michal était chez ce gars-là? C'est que quand David est parti en exil, son père, de force, l'a divorcé de David et il l'a remarié à quelqu'un d'autre. On lui a pas demandé son avis, hein? Et voilà que maintenant, politique aidant, on la redivorce une deuxième fois pour la remarier une deuxième fois à son premier mari d'avant. On lui demande toujours rien, hein. Et son mari, le deuxième, je veux dire, Paltiel, eh bien lui, il devait l'aimer parce qu'un homme qui pleurait publiquement à cette époque tout le long du chemin, c'est que vraiment il y tenait. Moi, ça m'étonnerait que si lui tenait tellement à elle, ça m'étonnerait qu'elle ne se soit pas aussi un peu attachée à lui quand même, hein. Alors, vous voyez, cette femme, elle va de manipulation en manipulation. Elle n'en sort pas. C'est sa vie. Quand elle est revenue, et le texte, c'est un peu triste, hein, mais le texte dit, son mari l'a suivie en pleurant jusqu'à Bakurim, c'est la frontière, point, c'est fini, après on parle d'autre chose. Rien ne nous dit comment elle a rencontré David. Comment ils se sont retrouvés? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Il se jeta alors dans ses bras, tandis que derrière elle, le soleil, le vent faisaient miroiter ses cheveux dorés. Non, 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 non. Non, 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 non. Elle est arrivée à Bakurim, c'est la frontière, point, c'est tout ce qui nous intéresse. Le reste, on parle d'autre chose. Vous voyez? Ça, c'est Michal. Alors, elle est rentrée à la maison, et elle, qui l'avait épousée par amour, parce que c'était l'objet de son cœur. À ce moment-là, elle était sa seule femme. Maintenant, elle rentre à la maison. Elle est le numéro 7. Hein? Parce que pendant ce temps, il en a pris 4 autres à Hébron. Donc maintenant, quand elle revient à la maison, son petit jeune homme, il a 37 ans, 6 femmes, plus elle, quoi, bon, derrière, et une flopée de gamins, tout un historique qu'elle ne connaît pas. Avant, il était officier. Maintenant, il est chef d'État. Vous voyez, j'essaye simplement de nous aider à rentrer dans la peau du personnage, cette fameuse Michal qui était si peu spirituelle qu'elle ne se réjouissait pas, vous voyez, devant l'arche. Hein. C'est juste pour qu'on essaye de la comprendre un petit peu plus. Et puis, comme si tout ça ne suffisait pas, eh bien, quand elle est arrivée à Jérusalem et qu'elle a retrouvé son mari, d'ailleurs on ne parle plus d'elle, eh bien, le texte nous dit qu'à Jérusalem, bien que David l'ait récupérée, il continuait de prendre d'autres femmes et d'autres concubines, etc., jusqu'à ce qu'à la fin, il y en avait quand même un certain nombre, ou un nombre certain. Alors, c'est sur ça qu'on arrive à la dispute. Et c'est cette femme qui voit son mari sauter, danser devant l'arche, et elle a vu autour de lui, elle a vu tout un groupe des servantes. Vous voyez, notez bien, tout à l'heure on a dit, elle ne s'est pas fâchée à cause des serviteurs qui regardaient David danser, mais à cause des servantes, des serviteurs. Il y avait encore tout un tas de dames qui étaient là, qui devaient être autour de David, qui s'extasiaient. Il est magnifique, il est tellement beau. Et vous voyez, là, elle a craqué, quoi. Là, elle a craqué. Son chéri, qu'elle avait d'abord dû perdre, après qu'elle a su être partagée en 3, et puis qu'après, elle a su être partagée en 7, puis après qu'elle a su être partagée en 12, avec le pas grand-chose qui lui restait, il lui restait 2-3 miettes, il fallait encore les partager, elle a dit non. je dirais, vous voyez, comprenez-moi bien. Je ne veux pas dire qu'elle a eu raison de le mépriser. Elle a eu tort. Et c'est clair que sa réaction prouve certainement que sa vie spirituelle était certainement pas bien forte, pas bien haute. Ça, c'est vrai aussi. Mais est-ce que notre jugement sur Mikal n'est pas un jugement un peu rapide? Est-ce que ce n'est pas un peu sévère? Est-ce qu'on n'a pas eu vite fait de considérer que... Oh, merci, une source d'eau. Est-ce qu'on n'a pas eu vite fait de considérer et de classer cette femme? Voyez? Et son attitude, bon, son attitude est mauvaise, etc. Mais c'est là que je voudrais vous amener, c'est à comprendre la réponse que David lui a faite. Quand elle a dit « Oui, tu t'es déshonoré », rappelez-vous, David répondit à Mikal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef que j'ai dansé. » Mais est-ce qu'on parle... Mais entre nous, est-ce que vraiment on parlait de ça? Mais qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Mais qu'est-ce que la mémoire de Saül vient faire dans cette histoire? Eh bien, ça nous montre... Hein, que David n'était pas guéri. Ça nous montre que David, un homme selon le cœur de Dieu, tout en étant un homme selon le cœur de Dieu, eh bien David avait besoin de guérison intérieure. Cette histoire-là, ça fait 15 ans au moins, au bas mot, ça fait plus de 15-20 ans qu'elle s'est passée, et dès que dans une dispute avec Mikal, ça l'a gratté à l'endroit sensible, eh bien David, instantanément, a ressorti, l'a recraché, toute sa blessure. Ouais, Saül, etc. En gros, si je transpose un petit peu en français, ça veut dire « t'es bien la fille de ton père ». Vous voyez? Non, mais c'est ça. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi à ton père. Mais est-ce que Mikal lui parlait de son père? Est-ce qu'on parlait de Saül? Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Ça veut simplement dire qu'il est blessé et qu'il n'a jamais digéré tout ça. Faut dire que Saül lui en a fait voir. Hein, ça, hein, une douzaine d'années passées en exil comme ça, à dormir sur des cailloux, à manger des cacahuètes et puis à pleurer pour sauver sa vie tous les jours. Hein, vous avez qu'à lire quelques-uns des psaumes écrits pendant cette époque-là. David, il y a des moments, il était au fond du trou, puis on comprend bien. Mais il en a tellement bavé que pour lui, maintenant, Mikal, c'est la fille de Saül. C'est la fille de Saül. Et dès qu'elle le chauffe un peu, il dit « Ouais, ton père et tout, votre maison, etc. En tout cas, Dieu m'a donné raison contre vous !» Mais elle lui dit « Mais je te parlais de ça ? Je te parlais pas de ça ?» Et vous voyez, je crois que si David, ce jour-là, au lieu de réagir avec son impulsion, s'il avait dit à Mikal « Mais ma chérie, mais est-ce que je te parle pas de ça ? Viens voir, viens là, écoute, tu es toujours ma femme, c'est toi que j'ai épousée en premier. » S'il avait su lui parler à son cœur, mais ça lui est même pas... Et franchement, je crois que ça lui est même pas venu à l'esprit. Lui, il l'a classée, elle n'est pas spirituelle, c'est tout. C'est-à-dire qu'il a fait comme nous en lisant le texte, quoi. Elle comprend rien. Et c'est ça qui m'intéresse, voyez. C'est juste une intro, c'est juste pour dire que dans le ministère, c'est une chose, mais dans le ministère, il y a le bonhomme qui exerce le ministère, voyez. À l'intérieur, il y a la personne en chair et en os, quelquefois il y a plus d'os, des fois il y a plus de chair, mais qui est dedans et qui m'intéresse. Et c'est là que nous devons apprendre à nous rencontrer. Parce que le ministère en lui-même ne prouve et n'atteste rien par rapport à ce que nous sommes et par rapport à notre fonction. C'est Dieu qui décide de faire selon sa souveraineté, de faire à l'un, à l'autre, etc. C'est lui qui décide et ça prouve rien. C'est pas parce que David est l'homme selon le cœur de Dieu qu'il n'a pas encore des choses à régler, qu'il n'a pas encore des choses à apprendre. Et si nous nous considérons simplement les uns les autres comme des ministères, on n'avancera pas. On restera les uns à côté des autres. Un point, c'est tout. Il faut arrêter avec ces révérences, ces machins, ces trucs, ces titres. Il faut rentrer dans une détermination à nous rencontrer, à nous connaître. Faire tomber les masques, faire tomber notre, quelquefois ce culte de l'image que nous avons tous dans notre chair. Vous savez, perdre le sens de l'image de soi, c'est intéressant. Je vous raconte un petit truc. Bon, je sais pas, ouais, c'est enregistré. Bon, ça fait. Alors, il y a quelque temps, j'étais en vacances avec toute ma famille. Un soir, on a décidé de faire, je ne sais pas si vous connaissez ça, une soirée moche. Non ? Alors une soirée moche, ça consiste à être dans un endroit où il y a bien du monde. Et là, on était sur la côte, donc on est allé sur sa cavalière, dans une station de voyage d'été. Et on s'est tous habillés, toute notre famille, on s'est tous habillés le plus moche possible. Oui. Mais attention, pas débraillé, pas sale, pas pauvre, moche. Hein? Moche. C'est maintenant que j'y pense. Si je vous amenais des photos, vous comprendriez tout de suite. Donc on était tous très moches. Et alors on est allé comme ça. On est allé là où on a été manger des glaces. On a été boire un coup. Les gens nous regardaient comme ça. Ils étaient atterrés. Une commerçante a poussé sa. Je l'ai entendu. Hein, elle a poussé sa copine du coude. Elle a dit non, mais là il va falloir appeler les pompiers. Ouais, c'est pour dire. Ils s'en sont aperçus quoi. Alors. Mais après, j'ai réfléchi, je me suis dit, je pense que quelquefois, dans certaines pastorales régionales, on devrait faire des soirées moches. Pour... Non, comme une thérapie. C'est une thérapie pour aider les pasteurs à sortir du culte de l'image. Bon, vous le faites si vous voulez. Hein. Nous, on l'a fait entre nous, donc maintenant, j'attends des propositions. Alors, si David a été aussi blessant avec Mical, c'est surtout parce que lui, il était aussi blessé. Chaque fois que quelqu'un est blessé, alors si ce n'est pas réglé, il devient blessant. Et là où ça me fait aller un petit peu plus loin, c'est que je me dis que si David était capable, avec son épouse, d'avoir une répartie aussi, finalement, entre nous, comme ça, aussi méchante, alors forcément, il va avoir aussi des problèmes similaires avec ses collaborateurs. C'est pas possible qu'un tel problème dans son cœur ne se limite qu'à une partie cadrée de sa vie. C'est dans son cœur, donc c'est dans son cœur pour toute sa vie. Ça veut dire qu'il va avoir des problèmes relationnels avec ses collaborateurs. C'est obligé. Bon, vous, je vous explique ça, c'est pour que vous compreniez que c'est arrivé à certains. Hein? Je sais bien que, bon, nous, on a... Ça ne nous concerne pas. Mais, c'est pour comprendre bien les textes. La stérilité de Mical, comprenons bien que Mical n'est pas devenue stérile à ce moment-là. Elle a toujours été stérile. Elle aurait pu avoir des enfants avec David avant qu'il parte en exil. Elle aurait pu en avoir avec le deuxième mari qu'on lui avait collé, Palti. Elle n'en a pas eu. Elle aurait pu en avoir de nouveau avec David depuis que David l'a récupéré. Elle n'en a jamais eu. Vous savez, la stérilité, ce n'est pas toujours... des causes organiques, c'est pas toujours des causes physiques. Il y a des fois, avant on pouvait pas, mais aujourd'hui on peut faire des examens médicaux et on découvre fréquemment des jeunes femmes qui, chez qui tous les petits quoi tout marche bien et qui n'ont pas d'enfants. Quand on fait les examens, tout marche, mais ça marche pas. J'ai connu quelqu'un dans ma parenté qui s'est mariée un peu tard, elle voulait rapidement avoir des enfants, impossible d'avoir des enfants et elle était dans ce cas-là. Les examens, tout était positif, ça marchait, tout marchait, mais ils n'avaient pas. Finalement, ils se sont décidés à adopter un enfant, et les formalités, ça a pris plusieurs années. Bon, quand ils ont eu l'enfant à la maison, dès qu'ils ont eu l'enfant à la maison, elle est devenue enceinte. C'est classique. Pourquoi ? Parce qu'elle a été, à ce moment-là, moi j'explique ça comme ça, hein, elle a été à ce moment-là confortée dans son rôle de mère, dans sa capacité de maternité, et tous les mécanismes se sont débloqués. La stérilité de Mical, moi je me dis, quelque part, une femme comme ça, manipulée d'une façon aussi odieuse, de tous bords, depuis son père jusqu'à son mari, en passant tout le temps, je dis une femme comme ça, quelque part, elle est vraiment candidate pour la stérilité, c'est clair. C'est clair. L'apôtre Pierre a dit, j'aime bien ce verset, il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amitié fraternelle, l'amour, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles. Si ces choses ne sont pas en nous, nous pouvons être stériles. Ce n'est pas organique. On peut être stérile à cause de l'amertume. C'est vrai dans le ministère. C'est vrai dans le ministère, c'est vrai dans les fonctions de Dieu. On peut être stérile à cause de l'angoisse, on peut être stérile à cause des blessures, on peut être stérile parce qu'on n'a pas digéré, on peut être stérile parce qu'il y a tout un historique qui n'a jamais été réglé. Et frères et sœurs, frères et sœurs. Nous sommes confrontés constamment par notre fonction même à une quantité de relations qui est très forte. La fonction même de pasteur, disons, d'homme de Dieu en général, c'est quelque chose qui, avant toute autre chose, est éminemment relationnel. Donc si nous n'avons pas réglé notre passé, si nous ne sommes pas au clair avec tous nos antécédents, forcément, nous continuons de retrouver fréquemment, constamment, les dividendes de nos anciens problèmes. D'où, je crois, qu'il faut que nous demandions à Dieu qu'il nous donne une grande lucidité, pas tellement une grande lucidité sur les autres, mais surtout une grande lucidité pour nous-mêmes, afin que Dieu nous aide. Il ne s'agit pas de faire de l'introspection, il ne s'agit pas de se regarder le nombril, il s'agit de laisser Dieu nous parler. David, je crois que, vous voyez, je pense que Dieu a permis cette scène, cette dispute entre David et Michal, parce que Dieu permettait à David de se retrouver au clair, tout à coup, confronté avec un problème qui était au fond de lui. Même s'il ne le regardait pas, même s'il ne le voyait pas, même s'il n'avait pas envie de le voir. Mais là, il s'est retrouvé en face. Or, il l'a élucidé en disant, oh, c'est votre faute, vous, tous les bandes à Saül, là, boum. Mais Dieu lui mettait sous le nez parce que ce jour-là, il avait une occasion de pouvoir se dire « Pourquoi je réagis comme ça ?» C'est intéressant de savoir pourquoi on réagit comme ça. Un jour avec Brigitte, on a rigolé parce que... je vais vous révéler un petit truc qui est entre nous. Hein. Tu n'écoutes pas Brigitte. Hein. Alors quand ma femme, la maison, on est au resto ou quoi, elle aime bien venir piquer un petit peu ce qu'il y a dans mon assiette ou dans mon verre. Et moi, ça m'agace. Alors je lui ai dit, mais si tu en veux, si tu veux un verre au lieu de boire dans le mien, je t'en sers un. Et qu'est-ce que tu veux boire? Non, je veux juste une goutte. Alors, et puis ça se répète comme ça. Et un jour, parce qu'il y a des fois des éclairs comme ça, un jour je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ça m'agace? Voilà, c'est des questions comme ça qu'il faut se poser. Alors quand un jour je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ça m'agace tellement? Tout d'un coup je me suis rappelé que c'est ce que faisait ma maman. Ma mère, elle faisait toujours comme ça. Elle buvait jamais. Si je me servais, oh, je t'en prends une goutte. Mais sers-toi, il y en a plein là. Vous voyez? Alors, j'ai compris, et j'ai toujours ma maman, et je l'aime beaucoup, et on a une relation très, très, très claire, on n'a aucun problème. Mais ma maman, c'est ma maman. Et j'ai pas envie que mon épouse rentre dans le rôle de ma maman. Vous voyez? Alors, des choses... Bon, ça c'est juste, tu vois, c'est une petite image comme ça. Mais mes frères, nous avons besoin d'être réalistes. Le ministère, l'onction, c'est ce que Dieu nous donne. Mais nous sommes devant aussi un défi, devant une responsabilité de continuer de traiter et de travailler le bonhomme qui est à l'intérieur. Ok ? Et ça se fera pas à grands coups d'imposition des mains. Ça se fait pas... Ouais, ou du... Non, pas du pied. Mais ça se fait à partir du moment où on accepte de devenir lucide pour que Dieu nous transforme. Le but de Dieu, ce n'est pas que nous soyons stériles. Le but de Dieu, c'est que nous portions du fruit. David, vous voyez, David, si j'arrive à ses collaborateurs, une chose qui m'a vraiment frappé, c'est que David, quand on est face à David, dans la Bible, ce n'est pas simplement David... Mais c'est la génération de David. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Je me dis, il y avait à ce moment-là une quantité de héros au mètre carré. C'est étonnant, quoi. C'est pas seulement David, parce que des gars qui ont fait ce que David a fait, par exemple David et Goliath, vous en avez toute une. Ils en ont dénombré 37 là, les vaillants hommes. C'était tous des gars qui étaient capables d'en faire autant. D'ailleurs, vous en avez un comme Benaja. Vous vous rappelez de Benaja? Un jour, il est descendu dans une citerne où un lion avait dû tomber, je ne sais pas, peut-être le verglas, je ne sais pas. Donc, il est descendu. Si, non, ce n'est pas une rigolade, c'était l'hiver, c'est écrit. Donc le lion est... Eh oui. Après, Vous allez m'embrouiller après. Alors, donc, Benaja est descendu dans la, citerne, et Benaja, tout seul, il y est descendu comme ça, tout seul pour affronter un lion. Bon, en général, un lion qui tombe dans une citerne, il est de mauvais poil, hein. Mais des gars comme Benaja, il y en avait 36 autres. Hein. Et je me dis, comment ça se fait qu'on les trouve tous dans la même génération? C'est comme le côté prophétique de David. David le prophète. Mais si vous regardez bien, dans sa génération, c'est une génération prophétique. C'est pas simplement Nathan, c'est pas simplement Gad, mais il y avait aussi Asaph, Eman, Jedutun, hein, celui qui... Et puis, il y avait... Et puis, il y avait tous leurs fils. Ils étaient des centaines. Et c'était tous des gens... C'était tous des gens qui étaient capables de prophétiser dans une seule génération. Vous avez, alors on dira aussi David, c'est la louange, l'adoration. Mais dans sa génération, c'est une génération de louange, une génération d'adoration. Quand vous voyez comme la place qui était faite à la louange dans cette époque-là, à la louange, à l'adoration dans le temple, tous ces héros de l'adoration qu'il y avait à ce moment-là, c'est extraordinaire. Et ça, c'est une marque fondamentale du ministère. Le ministère se duplique. C'est pas forcément que David s'est dit, il faut que je le fasse, il faut que j'en produise d'autres. Mais parce qu'il était ce ministère, alors il a produit, parce qu'il était un héros, il a produit des héros. Parce qu'il était un prophète, il a produit des gens inspirés. Parce qu'il était un adorateur, il a produit une génération qui adorait. Un des sceaux du ministère, c'est de produire des ministères. Pas forcément identiques, hein. C'est pas le problème. Mais c'est de produire des ministères. On est allé au cinéma avec Brigitte, il y a un mois ou deux, pour la deuxième fois en 10 ans, vous voyez. Non, c'est parce qu'on veut être dans le coup. Alors, on est allé au cinéma, et je vous dirai pas le titre, je veux pas faire de la pub, donc je vous dis pas le titre du film. C'est un truc avec un surveillant général qui dirige des choristes. Mais je vous dis pas le titre. Donc là, on a vu le film. Et il y a un truc spirituellement qui m'a très intéressé. C'est qu'à un moment, ce surveillant général, il fait passer à tous ses élèves un petit papier. Il leur demande quel serait le métier pour leur avenir dont ils rêveraient le plus. Alors, pêle-mêle, il a eu, je sais pas, un président de la République, 3-4 officiers de police, je sais plus, un aviateur, enfin, je sais pas, vous voyez les trucs habituels. Et à la fin, il dit avec mélancolie, en tout cas, il n'y en a pas un qui m'a dit qu'il souhaitait devenir un jour surveillant général. Quoi. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas dupliqué. Quoi, hein. C'est triste pour un pasteur de se dire, hein, j'ai exercé longtemps et j'ai donné à personne, en tout cas, l'envie de devenir pasteur. J'ai été longtemps dans le ministère. En tout cas, mon enthousiasme n'a pas provoqué un raz-de-marée. C'est vrai, hein? Non, mais vous rigolez, mais c'est pas marrant, hein? Une des preuves essentielles, un des gages du ministère, c'est la duplication. Si le ministère ne duplique pas, j'allais dire, c'est qu'il n'est pas un ministère. Comprenez-moi bien, je ne dis pas que c'est une mauvaise personne, je ne dis pas que ce n'est pas un bon chrétien, je ne dis pas que ce n'est pas un disciple merveilleux. Je dis simplement que nous dupliquons ce que nous sommes. Et nous ne pouvons pas dupliquer ce que nous ne sommes pas. Une photocopieuse ne peut pas faire autre chose que la reproduction de l'original qu'on lui a donné. Elle n'invente pas. Vous voyez, alors... Après, c'est bizarre parce que vous allez dire... que je vais me contredire, mais il y a ces 37 vaillants hommes qui étaient là, mais alors après, le haut du panier avec David, alors après, c'est beaucoup de problèmes. Beaucoup, beaucoup de problèmes. Ceux qui ont travaillé avec lui directement, hein, j'aimerais parler un petit peu, au risque d'avoir l'air de faire des grands mots, mais un petit peu de David en tant que manager. Et à ce niveau-là, j'aime mieux vous le dire tout de suite, comme ça, je ne vous prends pas par surprise, mais au niveau manager, à mon avis, David était pas bon, hein. Je vais vous montrer, pas vraiment bon, hein. Son principal collaborateur, je ne veux pas dire, on ne peut pas aller plus loin que collaborateur parce qu'ils n'ont jamais eu de communion. Son vrai collaborateur, c'est Joab. Vous connaissez Joab, qui est devenu en quelque sorte son chef d'état-major pendant les 40 ans où David a été roi. Joab a été son chef d'état-major et il était déjà de toute façon avec David, déjà quand ils étaient dans la bande à David, quand ils étaient en exil, puisqu'ils étaient un petit peu apparentés. Donc Joab a dû fuir la colère de Saül, comme toute la famille de David, hein, pour sauver sa vie. David, comme Saül était à moitié fêlé, donc il a été obligé de s'enfuir aussi. Et ils ont travaillé ensemble pendant, en tout cas, 40 ans, c'est sûr, mais certainement plus près de 50 ans. Et vous savez, vous rappelez comment Joab a fini. Tout à la fin de sa vie, David, avant de mourir, a dit à son fils Salomon, il a dit, en tout cas, il y a un truc qu'il faut que tu règles, que je n'ai pas réglé de mon vivant, mais je compte sur toi pour le faire. Il faut exécuter Joab. Et David a demandé à Salomon de le faire mourir. L'expression même qu'il emploie, il dit, tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. C'est super, hein? C'est son premier collaborateur. C'est celui avec lequel il a travaillé du plus près pendant 40 ans. Et il l'a fait exécuter à la fin. Moi, je sais pas vous, moi, des trucs comme ça, ça me pose des questions. Je me dis, si on réfléchit seulement sous l'angle de Joab, je me dis, est-ce qu'on peut servir Dieu toute sa vie, efficacement, parce que Joab était efficace, hein, un type très efficace. Est-ce qu'on peut servir Dieu toute sa vie, efficacement, et finir par un échec? Ça vaut quand même le coup de se poser la question. Parce que Joab nous la pose. Joab a été un gars très très efficace, compétent, dans sa fonction inégalable, incontournable. Le type qui, à tout moment, c'est le gars qui sait ce qu'il doit faire et il le fait. Un homme courageux, de surcroît, qui s'est mouillé lui-même, c'est pas simplement « allez-y les gars, on vous couvre hein. », un gars qui était lui-même dans les situations, qui a lui-même mis sa vie en danger pour sa cause, et le voilà qui termine une fin lamentable, misérable comme ça, il n'y a pas plus misérable que ça, il n'est même pas mort, on ne lui a même pas fait un procès, il est hop, allez, dégagé. Je dis, mais c'est grave. Moi, ça me donne un peu des sueurs froides, je dis, mais... Où sommes-nous? Où sommes-nous dans la course? L'apôtre Paul s'est posé des questions aussi pour lui-même. Il a dit, qu'il réfléchissait à lui-même, il a dit, de peur d'avoir couru en vain, je ne voudrais pas à la fin être dépossédé du prix. Ça montre encore une fois des choses qu'on sait, mais que l'essentiel n'est pas dans la fonction, mais dans ce qui est à l'intérieur de la personne. Parce que Joab a été très efficace. On ne peut rien dire. Au niveau de chef ministre de la Défense, bon, il a été exemplaire, hein, exemplaire. Mais devant Dieu, il a été désavoué. Parce que vous savez pourquoi? Parce que Joab ne servait pas Dieu. Joab servait le portefeuille de ministre de la Défense. C'est ça sa vie. Sa vie, ce n'était pas ce qui se passait à l'intérieur de lui. Sa vie, c'était sa fonction. Sa fonction, c'était tout. Joab était prêt à tout mettre en cause. Il était prêt à renoncer à tout. Il était pour sa fonction. Et parce que c'est sa fonction qui a pris dans son cœur la place de Dieu, alors à la fin, il a été désavoué. Servir Dieu. Alors, David, pourquoi est-ce que David l'a fait mourir? David l'a fait mourir en lui reprochant deux meurtres. Il a dit à Salomon, tu feras mourir Joab, parce qu'il a tué deux personnes, Abner et Amasa. Je fais un peu de l'histoire, hein. De toute façon, vous connaissez, vous l'avez lu quand même, hein. Il y en a qui rigolent pas, ils sont inquiets. Ils disent, mince, à partir de là, je ne vais plus rien comprendre. Alors, Abner, moi, je mettrais... Pour moi, c'est un opportuniste. Vous voyez, c'est un opportuniste. Abner, d'abord, avait tout misé, il a tout misé sur le fils de Saül. Quand David est devenu roi, hein, sur la seule tribu de Juda, d'abord, Tout naturellement, quand on lit ça dans le texte, on s'attend à ce que David devienne instantanément roi sur tout Israël. Ça aurait été logique, Saül meurt, David prend sa place, bon, ben, il reprend derrière, c'était normal. Mais voilà que ce fameux Abner arrive, et lui, il a misé sur un autre cheval. Il se dit, non, moi je pense que le fils de Saül, Ish-Bosheth, est meilleur, il est mieux que ce David-là. Alors, il a foncé avec Ish-Bosheth. Et à cause de Abner, voilà qu'il y avait maintenant, dans le peuple de Dieu, il y avait une division, deux royaumes, lesquels deux royaumes, juifs tous les deux, bien sûr, étaient en guerre l'un contre l'autre. Il y a eu des conflits, des batailles, des milliers de morts, etc., grâce à l'intervention de Abner. Et bon, finalement, rapidement, le royaume de David a pris le dessus sur l'autre royaume d'en face, celui d'Ish-Bosheth avec Abner, jusqu'à ce qu'à un moment, Abner a senti que le vent tournait, et qu'il avait misé du mauvais côté. Bon, il a dit, ça fait rien, on va changer de camp, hein. Alors, il est allé trouver David, et il a dit, écoute, si on s'arrange tous les deux, moi je te soumets les 10 tribus qui te manquent. Pas de problème, moi si je leur dis, je les convainc, tout ça, je les amène. David était content. Il était content. Ça faisait des années qu'il régnait sur une seule tribu, alors qu'il savait qu'il devait avoir tout Israël. Et voilà que tout d'un coup, le gars le lui amène sur un plateau. C'est comme un fruit mûr qui lui tombait dans la main. David était tellement content. Alors il a dit, on fera une alliance tous les deux, pas de problème. Alors si vous lisez bien, vous verrez que dans ces cas-là, David ne consulte jamais Dieu. Hein, là, il ne consulte pas. Là, il fonce, ça lui plaît. Et nous, on fait des bêtises comme ça aussi. Quand quelque chose nous plaît, quand ça nous arrange, quand ça va dans le sens du ministère, quand on croit que ça va faire grandir l'Église, ou que ça va nous donner de la prestance, ou du crédit. Quand quelqu'un arrive, il achète son rachat en amenant une dot de ses capacités, de ses talents, de ses connaissances, de son carnet d'adresses, de son fichier, de son savoir-faire, ses entrées à tel truc. Mais mon frère, nous nous aimons. Mais on ne consulte pas Dieu. Et en faisant ça, si David avait fait attention, il aurait pris garde à une chose qui n'est pas un détail, c'est qu'Abner était un traître. Parce qu'en faisant ça, Abner n'a même pas consulté son propre roi, Ish-Bosheth. Il ne lui a même pas demandé. Ce qui fait qu'il était traître à son propre roi. Et deuxième chose très grave de la part d'Abner, c'est qu'Abner a expliqué, pour convaincre les autres de se rallier finalement maintenant à David, il leur a dit, écoutez, David, c'est lui, loin de l'Éternel. Je vous lis ce verset. Abner dit aux anciens, il leur dit, l'Éternel a juré à David en disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne et qu'il établirait le trône de David sur tout Israël. Abner est en train de dire, je sais depuis longtemps qu'aux yeux de Dieu, loin de l'Éternel, c'est David. Il le sait, mais ça fait 7 ans qu'il lutte contre. Voilà. Il le sait, mais il lutte contre Dieu. Et c'est un gars comme ça avec qui David est en train de vouloir faire une alliance. Un gars qui est un traître et qui avoue publiquement, sans vergogne, qu'il est un rebelle à l'Éternel depuis toutes ces années, qu'il a fait une guerre contre Dieu. Et David lui dit, mais viens voir, bien sûr, on va faire une alliance. Super le management là, hein? C'est bon, hein? Oui, mais ça l'arrangeait. Alors ce qui a compliqué un peu plus les choses, c'est que ce Abner, il arrivait aussi avec un passé. Et dans son passé, il avait aussi un jour tué le frère de Joab dans une bataille. Alors Joab, il lui avait gardé une dent. Et quand Joab est revenu et qu'il a vu qu'on était en train d'accepter Abner pour faire une alliance, il a dit, quoi, le type qui a tué mon frère? Alors il rentre à la maison comme ça, tac, on l'accepte, ça se va bien, ouais. Et David, voyez, c'est pour ça que je dis que David, quelquefois au niveau direction, David est très faible, très très faible. David n'en a même pas parlé à Joab. Joab, c'est le numéro 2 du royaume au niveau politique. Ça veut dire que c'est son collaborateur prioritaire. David ne lui en a même pas dit un mot. Joab l'apprend comme ça, par derrière, par la bande. Alors bien sûr, quand on se comporte comme ça avec ses collaborateurs, on leur propose un modèle qu'ils vont imiter. Ça, c'est obligé. Et la façon dont David se comporte avec ses collaborateurs, eh bien Joab, il va faire pareil. Il dit, ah, d'accord, c'est comme ça, pas de problème. Il sort, il appelle Abner, il fait semblant de lui parler dans un coin, et lui, hein. Voilà, il dit comme ça, la question est réglée. Non, je vous ai dit que c'était quelqu'un d'efficace, hein. Ça, efficace. Très efficace. Alors David, ouais, c'est pour ça qu'il faut des fois lire les textes autrement qu'en les spiritualisant. David, là, sur ce coup-là, David était vachement embêté. Parce qu'il s'est dit, maintenant, ceux d'en face vont croire que c'est moi qui ai monté le coup. Alors, ça va mettre du frein dans nos affaires. Alors, il a été obligé de désavouer Joab. Il a pleuré, il s'est lamenté, il a conduit le cercueil, etc. Je vais vous dire ce que je pense. Je ne suis pas sûr que David pleurait tellement sur Abner. Je pense qu'il pleurait surtout sur les affaires de son pays qui prenaient un mauvais coup dans cette histoire. Vous voyez, je vais vous dire, franchement, hein, je suis franc avec vous. Hein. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous voulez, vous ne croyez pas. Mais David, vous voyez, pour aller au bout de sa démarche et pour se disculper de toute suspicion, de complicité, alors David a été carrément a été amené à prononcer sur Joab une malédiction. Vous saviez que David était capable de prononcer des malédictions, je vous la lis. Il a dit que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux, de la lèpre, qui s'appuie sur un bâton ou qui tombe par l'épée ou qui manque de pain. C'est-à-dire qu'il a prononcé sur lui, et sur, pas seulement sur lui, mais sur toute sa descendance, une quadruple malédiction. Une malédiction de maladie incurable, d'infirmité, de mort violente et de pauvreté. Et après ça, il va continuer de collaborer avec lui. Non, vous y croyez, vous ? Vous croyez qu'on peut, comme ça, se maudire et puis continuer après de travailler ensemble ? Eh, ça va ? Ça ne tient pas. Mais c'est quand même ce qu'il essaye d'être faire. C'est pour ça que je dis qu'au point de vue, direction, vous voyez, David, ce n'est pas le top. Moi, je pense que, à mon avis, chez les leaders, je dirais qu'il y a deux types essentiels de leaders. Vous avez le leader, après je m'expliquerai sur les mots, ne sursautez pas. Il y a le leader charismatique et puis il y a le leader manager. J'emploie ici le mot charismatique, non pas au sens qui croit à la Pentecôte, au don du Saint-Esprit, etc. C'est pas ce que je veux dire. Je l'emploie exprès dans le sens où dans le monde on parle aujourd'hui de leader dans politique. Hein, des fois on parle de quelqu'un qui est on dit « Ah, quel charisme il a cet homme !» C'est-à-dire quelqu'un qui est attractif, hein, quelqu'un qui a un sens de la relation un peu captivant. David, c'est quelqu'un qui dirigeait par impulsion, je dirais, c'est quelqu'un qui dirigeait par révélation. Et quand quelqu'un dirige par révélation, c'est formidable, tant qu'il est branché, c'est formidable. Mais quand quelqu'un comme ça n'est plus branché, alors il dirige par impulsion. Il dirige avec son émotivité. Il prend des décisions, et c'est des décisions immédiates, sans concertation, sans réflexion, sans programme, c'est de l'impulsivité toute brute. Ça, c'est David. Alors, quand David consulte Dieu, il est capable d'avoir des choses qui sont extraordinaires. Il est capable d'avoir des directions là où les autres n'auraient vu que du brouillard, parce que Dieu lui parle. Mais quand David n'est plus un homme qui réagit comme ça, et quand il est seulement laissé à lui-même, alors il devient quelqu'un d'extrêmement dangereux. Et là, on voit tout à fait ses limites. L'autre extrême, c'est ce que j'appelle le leader manager, c'est-à-dire celui qui dirige par l'étude, par l'analyse, par la réflexion, par le programme, par des plans. Alors, dans un sens, c'est quelque chose qui souvent a de meilleurs résultats parce qu'on prévoit, parce qu'on va plus loin, parce qu'on tient compte. Mais d'un autre côté, sans la direction de Dieu, ça aussi, on tombe aussi dans des failles, dans des programmes, etc. L'idéal, ça serait quelqu'un qui serait à la fois capable de recevoir la révélation, mais aussi quelqu'un qui est capable de tenir compte de son entourage, de tenir compte des gens. Par exemple, un point que je crois très important, c'est que David a montré ici qu'il ne tenait aucun compte des sentiments de ses collaborateurs. Vous voyez ? David savait très bien que Abner était le meurtrier du frère de Joab. Or, quand David dit à Abner qu'il va le prendre dans son équipe directement, Ça suppose qu'après ça, il faudra que Abner et Joab travaillent ensemble. Il faudra que les deux travaillent ensemble, dont l'un a tué le frère de l'autre. C'est possible, ça? Alors, bien sûr, on va dire, ouais, mais bon, c'est pour la cause de l'Éternel. Non, attendez. Non, on va être réaliste un petit peu. Imagine que tu saches que quelqu'un, tu connais quelqu'un qui a tué ton frère de sang. Il l'a tué, on n'en a jamais parlé, on n'a jamais réglé la question, on n'en a même pas discuté, il n'y a pas eu de repentance, il n'y a rien eu. Tout d'un coup, il arrive, on te le colle dans ton équipe et c'est ton collaborateur. Tu acceptes? Ah, c'est pas possible quand même, non? Mais vous voyez, ça c'est des trucs, ben David n'y a pas pensé. S'il n'y a pas pensé. Tout d'un coup, on lui offre une dizaine de tribus comme ça sur un plateau. Ben, il dit, ben, c'est super, mais il n'y a pas pensé. Vous voyez, quand on parle de communion, la communion, ça va plus loin que la collaboration. On ne peut pas faire de la communion, on ne peut pas vraiment travailler ensemble si on n'est pas décidé à tenir compte des sentiments de ceux qui travaillent avec nous. Il ne faut pas spiritualiser comme ça dans la stratosphère, comme ça. Nous existons tous avec des sentiments, avec des passions, avec des regrets. Si nous ne sommes pas capables de comprendre que celui avec qui on travaille a des souffrances, a des besoins, a des peurs, a des faiblesses, a des blessures, a des soucis, alors on ne pourra pas travailler ensemble. En tout cas, on ne pourra pas le diriger. Et c'est là que David, à mon sens, montre beaucoup, beaucoup de limites. Vous voyez, un gars qui, dans la Bible, qui me semble avoir été quelqu'un de très bien, vous voyez, entre ces deux extrêmes, le tout charismatique au sens où je l'employais tout à l'heure, hein, et le tout manager, c'est quelqu'un comme Néhémie. Néhémie, c'est quelqu'un qui était à la fois quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui reçoit des indications de Dieu, quelqu'un qui est vraiment, hein, quelqu'un qui est capable de recevoir la révélation, mais c'est aussi quelqu'un qui prévoit. C'est quelqu'un qui projette, c'est quelqu'un qui fait des plans, c'est quelqu'un qui tient compte, c'est quelqu'un qui collabore, c'est quelqu'un qui regarde ce qui se passe autour de lui. Voilà, ça, je trouve, c'est à ce niveau-là, c'est un bon exemple. Je ne dis pas qu'il faut faire des... On ne fait pas des classements, hein, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais, en tout cas, il y a chez David des choses qui sont pas claires. Mais dans le passé de... Vous voyez, il y a surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de non-dits, beaucoup d'ambiguïté. David, c'est quelqu'un qui était très, très, très bon en relationnel avec Dieu. C'est la relation que David avait avec Dieu, dans laquelle il était bon. Mais dans les autres relations, il n'est pas très bon. Il n'est pas très bon. Avec ses femmes, il n'était pas très bon. Avec ses enfants, il n'était pas très bon. Avec ses collaborateurs... Il n'était pas très bon. Là où David était bon, c'est avec Dieu. C'est un homme selon le cœur de Dieu. Alors quand on dit que c'est un homme selon le cœur de Dieu, facilement, quelquefois, on croit que ça veut dire que ça cautionne tout ce qu'il est, tous les à côté, tout ce qui se passe à l'intérieur. Et non, mais non. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels il avait beaucoup de choses à changer. Il faut qu'on en soit conscient pour nous-mêmes. Il faut qu'on en soit conscient pour ceux qui nous entourent, pour qu'on puisse rentrer dans des relations qui soient des relations profondes, des relations de communion, des relations, pas des relations désincarnées, pas des relations seulement fonctionnelles, pas des relations seulement où on fait fonctionner une machine, mais des relations dans lesquelles des hommes se trouvent cœur à cœur ensemble. Et ça, à ce moment-là, nous allons changer quelque chose. À ce moment-là, notre ministère va aussi donner envie à ceux qui nous entourent. Je me souviens qu'il y a une trentaine d'années, quand on est arrivé au Seigneur, une des conceptions qu'il y avait du ministère à ce moment-là, c'était, quelquefois j'ai entendu ça, c'était le ministère, c'était un petit peu comme une fonction qui vous mettait à part, à l'écart, loin, au-dessus, un petit peu l'aigle là, tout en haut, qui vole et qui regarde de loin, comme ça, j'allais dire, intouchable, loin de tous. Et en quelque sorte, ça voulait dire que c'était quelqu'un qui serait toujours seul et qui n'aurait pas de relation, d'amitié, parce que sa fonction le mettait. Et je ne souscris pas à cette vision. C'est faux et ce n'est pas biblique. Le ministère ne nous déshumanise pas. Nous continuons d'être des gens avec un cœur, avec des sentiments, avec des besoins émotionnels. Et nous avons besoin de nous rencontrer sur ces terrains-là. Et ne pas tenir compte des sentiments de ceux qui nous entourent, c'est s'interdire l'unité. On fera peut-être de la collaboration, on fera peut-être fonctionner des machins, mais on ne sera pas dans une véritable communion. Frères et sœurs, nous avons besoin que Dieu nous aide à ça. Quelquefois, c'est parce qu'on a peur de se découvrir, mais il nous faut aller plus loin. Vous voyez, David n'a pas réglé avec Joab tous les trucs difficiles, tous les dossiers difficiles. Ils les ont jamais réglés tous. C'était tout, ils avaient tout un tas de pétards comme ça, à retardement sous leur chaise, qui n'attendaient qu'à péter à n'importe quel moment. Même l'histoire du riz, ça n'a jamais été réglé. Bien sûr, quand on parle du riz, on dit riz. Bon, mais c'est David qui est, mais c'est pas seulement David. David, c'est celui qui a donné l'ordre, mais celui qui l'a fait mourir, c'est pas David, c'est Joab. Joab l'a fait mourir, c'est Joab qui a dit, bon, mettez Uri à tel endroit là pour qu'il meure, etc. C'est lui qui l'a fait mourir. C'est pas seulement David, Joab est directement responsable. Alors on va dire, oui, mais il avait reçu un ordre, il pouvait, mais non. Un homme courageux, quand il reçoit un ordre inique, eh ben, il dit, c'est un ordre inique auquel je ne peux pas obéir. Frères et sœurs, je vais vous dire souvent ce qui arrive. C'est que même entre nous, des fois, il y a des réunions. Pendant la réunion, personne ne dit rien. Quand on arrive dans la cour, sur le parquet, oh, moi, j'étais pas d'accord. Ben, pourquoi tu l'as pas dit? Mais alors? Moi, ça m'est arrivé une fois ou deux. Le Seigneur m'a repris. Et c'est pour ça que j'ai décidé qu'avec sa grâce, que je le ferai plus. Mais je me souviens d'une fois ou deux dans des circonstances. Et où je sais que j'aurais dû dire, je suis pas d'accord, c'est pas biblique. C'est pas juste, c'est pas vrai, c'est pas bon. Et puis voilà, des tas de choses. Et après, ça m'est revenu et j'étais chez moi et j'avais honte devant Dieu. J'ai dit, j'avais honte, j'ai dit j'aurais dû ouvrir ma bouche, mais j'ai dit Seigneur, j'en ai marre, après je vais toujours l'ouvrir. Eh bien oui, le Seigneur dit, je te donne une bouche, eh bien utilise. Frère, Paul dit, soyez des hommes. Ça veut dire d'être courageux, ça veut dire de s'exprimer quand quelquefois ça nous plaît pas, quand c'est difficile, mais pas dans un sens agressif. Bien sûr, il faut apprendre à mettre les formes. Bien sûr, il faut le faire en ayant expurgé les mauvaises motivations. Bien sûr, il faut le faire avec charité. Bien sûr, il faut savoir quand le dire, comment, où, à qui. Quelquefois, peut-être à quelqu'un tout seul. Ok, d'accord, il y a tout ça, ça s'étudie. Mais au moins, il faut l'avoir dit. Si Joab avait dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de faire mourir Uri, un de nos meilleurs officiers, tout d'un coup, ça sort d'où, ça? S'il avait renvoyé à David un mot en lui disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si Uri a fait quelque chose qui va pas bien, alors qu'on lui fasse un procès, qu'on nous dise, mais moi, je veux pas perdre mes meilleurs officiers comme ça, sans même savoir seulement pourquoi. Il ne serait pas lui-même devenu, dans cette circonstance, un assassin. Il aurait aidé David à ne pas le devenir lui-même. Ah, bien sûr, ça aurait pas arrangé David pour l'autre histoire. Bien sûr. Mais il aurait pu l'aider ce jour-là. Et il aurait pu sauver Uri, qui est mort. Et lui, pour le coup, il n'a pas su pourquoi. Hein. Et pas simplement lui. Mais parce que pour que la mort d'Uri et un air quelque peu, j'allais dire, authentique, il fallait pas qu'il meure tout seul. Il fallait qu'il meure au milieu d'un petit groupe. Alors les autres, ils sont morts, alors eux, ils ont rien compris au film. Hein. Ils sont morts tout d'un coup dans une attaque manquée, un truc karaté, quoi. Ben, qu'est-ce que vous voulez, des bévues, hein. Voilà, une boulette. Alors sûrement que David, après, a fait envoyer une médaille militaire à leur veuve. Hein. Ça, sûrement. Ah ben oui. Elles ont dû dire, oh, au moins on a un roi qui pense à nous. Ouais, qui pense à nous. Un homme courageux sait résister à un ordre inique. Un homme courageux, il sait ouvrir sa bouche quand il doit le faire. Dieu éprouve quelquefois la soumission que nous lui rendons à lui en la mettant en concurrence avec la soumission que nous rendons à des hommes. Et Dieu veut savoir comment nous allons décider. Les apôtres ont dit devant le Sanhédrin, jugez vous-même. Est-ce qu'il nous faut obéir à Dieu ou aux hommes? Ce qui est difficile, c'est d'accepter de se poser des questions semblables sans perdre notre sentiment de soumission, sans perdre notre état d'esprit de déférence, de respect et de soumission à ceux à qui nous en devons. Mais voyez, c'est quand même triste. Hein, David, on dit toujours David, le berger d'Israël. Dans l'histoire de Ré, pas tellement berger quand même. Hein, ça fait triste de voir des leaders qui sont dépourvus de toute affection envers ceux qu'ils dirigent. Alors un gars comme Joab, lui, ça ne lui a pas fait de problème. Hein. Ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie, c'est le métier, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Hein. Il a dit, j'ai droit à 4% en temps de paix, donc... Lui, c'était pas un problème. Mais que dirait-on d'un berger qui accepterait facilement des pertes dans son troupeau? Et un pasteur? Frères et sœurs, quels sont nos sentiments? On fait fonctionner ou on vit avec des gens? Si Dieu n'a plus reproché cette histoire à David après, c'est parce que David s'est repenti. Mais Joab ne s'est jamais repenti, ni de ça, ni de rien, ni de quoi que ce soit. Il ne s'est jamais repenti. Et c'est pour ça qu'il a fini misérablement. La repentance que nous prêchons à nos ouailles, il nous faut nous l'appliquer à nous-mêmes. Imaginez maintenant, je termine par ça, 2 minutes, je ne regarde pas Samuel, sans ça il va me faire signe que... Mais... Une question que je me pose, c'est comment maintenant David et Joab, après l'histoire du riz, comment David et Joab pouvaient continuer de collaborer ensemble, sachant le crime qu'ils avaient commis ensemble, hein, ils sont complices d'un crime sans en avoir jamais réellement parlé l'un et l'autre. Ils n'ont jamais remis ça après en lumière. Comment est-ce qu'après... Dans la collaboration, comment est-ce qu'ils pouvaient collaborer? Vous imaginez Joab, après, par rapport à David, comment est-ce qu'il percevait David, hein, quand tous les autres devaient dire « Oh, David, David hein, !» Lui, au-dedans, il dit « Ouais, ouais, moi, je connais d'autres choses. Moi, je connais le reste. » Comment est-ce que... Vous voyez, c'est une relation qui, après, était forcément très, très compliquée. Comment est-ce qu'il pouvait garder ne serait-ce que du respect pour David? Il ne pouvait pas garder du respect pour son chef. Son chef, c'est un assassin, un dissimulateur, il est noir. Alors après, quand il revenait à Jérusalem, il voyait peut-être David dans le temple, diriger le chœur, la louange et tout. L'autre, il dit, il n'a même plus envie d'aller à l'église. Au temple, je veux dire. C'est parce que je pensais à autre chose. Mais au temple, il n'a même plus envie d'y aller. Bien sûr, quand David lui a dit, fais mourir Uri, ben, sur le coup, Joab, il ne savait pas pourquoi. Il dit, tiens, qu'est-ce qui arrive? Je croyais que c'était un bon gars. Bon, il l'a fait mourir. Après, il apprend que très très vite après, mais ça n'a pas traîné, tout de suite après, il apprend le mariage de David avec l'ex d'Uri. Ah, il dit, bon, là ça va, j'ai compris. Ça va, là j'ai compris. Compris le truc, ouais, il l'a fait mourir pour lui piquer sa femme, quoi. Et comme après 5 mois de mariage, elle accouche d'un beau bébé prématuré, mais qui avait déjà bien grandi... Ouais. Bon, alors lui, il calcule parce qu'il n'était pas sot, il savait compter jusqu'à 9, donc il s'est rendu compte. Il savait très bien que 9 mois avant, quand le petit a été conçu, eh ben, Uri, il était sur le front. Voilà, donc eh ben, il dit maintenant, c'est voilà, c'est tout simple. De toute façon, à Jérusalem, c'était un secret de polichinelle, hein, parce que tout le monde sait compter. Hein. Vous savez, les secrets, c'est un truc, quelqu'un dit, un secret, c'est quelque chose qu'on ne répète qu'à une seule personne à la fois. Comment ils auraient pu garder une relation saine? Comment ils auraient pu garder une relation saine qui était basée sur des dissimulations tacitement entretenues comme ça? C'est impossible. Tant qu'ils ne mettent pas ces choses à la lumière, c'est pas possible. Joab, forcément, après l'histoire du riz, Joab forcément était maintenant extrêmement méfiant vis-à-vis de David. Mais on le sera moins. Il dit, rendez compte, non mais attendez, moi à sa place j'aurais flippé, hein. Parce qu'il se dit, voilà que Uri était devenu gênant, on a fait disparaître Uri. Ben Joab, il se dit, le jour où moi je deviens gênant, Tout d'un coup, au retour de mission, je vais avoir un accident de camion. Hein. Alors il a fait doubler ça, il a fait doubler, moi je suis sûr, il a fait doubler ses gardes du corps, et puis maintenant il fait vachement attention, parce qu'il ne peut plus avoir confiance. Si nous ne réglons pas nos différends, si nous n'amenons pas à la lumière les choses qui nous ont été difficiles, dans lesquelles on s'est blessé, dans lesquelles on s'est compromis, dans lesquelles on s'est trompé, dans lesquelles on s'est vautré, dans lesquelles on s'est fait du mal, toutes les choses qu'on sait, mais si on ne les règle pas, si on continue dans le non-dit, si on continue dans l'ambiguïté, si on continue comme ça dans le sombre, alors on ne peut pas avoir confiance les uns avec les autres. On peut pas, chacun ne peut pas avoir. Et puis on n'a même pas confiance en soi devant l'autre. Comment David pouvait maintenant lui-même aussi devant Joab se tenir guilleret, c'est pas possible. Il sait bien que l'autre sait. Alors chacun à la fois méprise l'autre et se dévalorise lui-même. Mais on peut pas. C'est une catastrophe. Au niveau relationnel, ça ne peut que se finir très très mal. Ça peut pas avancer. Une des preuves, vous avez un truc qui montre que Joab était maintenant très méfiant, c'est que, vous savez, cette ville qu'il assiégeait, là où il a fait mourir Uri, ça s'appelait Rabba. Et quand Joab s'est rendu compte que la ville, sa résistance tombait, que le lendemain, ils allaient complètement finir de la conquérir, alors il n'a pas voulu le faire. Il a envoyé un message à David, il lui a dit « Viens vite, afin que ce soit toi qui l'aies conquise ». De peur qu'on ne m'attribue à moi la gloire, il vaut mieux que ça soit à toi. Parce qu'il s'est dit, si après c'est moi qui prends la ville, on va dire, ouais, Joab, David va prendre ombrage, moi après je vais encore avoir des histoires. Et puis il se rappelait comment ça s'était passé du temps de l'enfance de David avec Saül. Il se dit, on va faire un remake de l'histoire de Saül, et c'est moi qui serai dans le rôle de l'homme à abattre. Alors il a dit, non, moi je fais pas ça. Viens-toi, puis prends la ville. Comme ça, après, on te donnera la louange. C'est bon pour toi, ça. Mais voyez, vous voyez dans quelles astuces fonctionnent deux personnes qui sont les numéros 1 et les numéros 2 d'un royaume qui doivent diriger le peuple de Dieu. Vous voyez comment, à l'intérieur de leur tête, ils en sont réduits à fonctionner pour essayer de s'en sortir l'un avec l'autre. Je dis, c'est quand même un petit peu grave. C'est quand même dommage. Il nous faut des relations profondes. Nous devons vivre dans des relations profondes, des relations humaines, des relations vraies, pas solitaires, des vraies relations solides, des relations où on va se comprendre, où on ne va pas se mépriser, où on ne va pas se cacher non plus. Il faut que Dieu nous aide. Hein? Excusez-moi, je crois que j'ai dépassé le temps, mais peut-être simplement si on peut encore prier pour tout ça une seconde.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.